Et avec ses frères ensemble.
Donc, oui, mais c'est pas vrai. Tu mets 20 frères ensemble, ils passent tous à côté.
Non. 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 Il y en a toujours l'un ou l'autre qui a découvert quelque chose. On ne passe jamais totalement à côté du texte.
Totalement. Oui. Non. Le fait que justement, celui qui râle parce que c'est incompréhensible. Oui. Alors, ben, il se pose la bonne question, comment peut-on le comprendre?
Ben oui.
Oui. Ici, mais moi je suis là pour, et moi j'ai de l'argent pour me payer la session et j'ai du temps. Hein? Je suis un curé, j'ai du temps. Mais les autres n'ont pas le temps et n'ont pas l'argent et n'ont pas l'environnement.
Que si vous avez l'occasion de lire une page d'évangile avec n'importe quel groupe de chrétiens, eh bien vous verrez que la compréhension de cette écriture, elle va progresser non seulement pour eux, mais aussi pour vous. Et moi, c'est une expérience que j'ai faite, je dirais, dans des milieux qui sont extrêmement divers. Et actuellement encore, tous les lundis, nous le faisons chez nous. Et ici, c'est un témoignage, ce n'est pas quelque chose que j'invente ou quelque chose que je voudrais, mais je vois que des gens qui sont très simples, qui n'ont jamais eu d'initiation particulière, qui n'ont jamais fait de théologie, eh bien, sont capables de se poser les bonnes questions. Pas toujours de répondre à toutes les questions, bien entendu. Mais ce n'est pas nécessaire non plus. Parce que lorsque une bonne question est posée, il y a toujours l'une ou l'autre personne qui trouve, non pas des réponses, mais des éléments qui peuvent faire progresser vers la compréhension du texte. Et je le dis, et pour engager une chose pareille, il faut avoir la foi, je crois, qu'il s'agit de la parole de Dieu, justement. Et que donc Dieu veut nous mener à travers cela. Et que Dieu est capable de le faire. Mais si, avant de commencer la lecture, je dis ce texte est incompréhensible, c'est impossible d'entrer dedans.
Il y a un petit temps que je suis entré dans la lecture, tu vois. Et il y a un petit temps que je me dis, sapristi, hein, pour y arriver, il en faut. Tu vois, c'est pas avant d'entrer dans la lecture que je dis c'est incompréhensible. Hein, j'ai 60 ans et il y a 45 ans que je suis dans ce genre de truc. Je ne sais pas combien. Hein? Et on avance, oui, on avance. Mais je me dis, pourquoi faut-il que ça soit si abscon? Pourquoi faut-il que ça soit si abscon et qu'il faille tout le temps dire, ah, le texte dit ça, mais attention, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit.
Non. Le texte, je ne dis pas ce n'est pas ça qu'il dit, c'est pas ce que nous avons en tête qu'il dit. Nous avons une image du texte. Et le texte dit autre chose que l'image que j'en ai. Oui?
Est-ce que ce n'est pas finalement le problème même de l'incarnation qui est là mis en route? Parce que, imaginons que Dieu se soit révélé au 20. À la fin du XXe siècle, au début du suivant, je suppose que pour les précédents, comme pour les suivants, plutôt pour les suivants, ça aurait été quand même assez difficile de comprendre ce qui s'est passé dans notre temps. Donc c'est le problème de l'incarnation.
Ça c'est sûr, c'est sûr. Je n'ai pas à me poser la question si ça avait été aujourd'hui, parce que ça a été à travers l'expérience d'un peuple, et c'est une expérience séculaire. Et ce peuple a essayé de mettre le plus profond de son expérience dans des textes qui sont faits pour être lus ensemble et pas pour être lus simplement dans un livre. Oui, il y avait Jean-Marc.
Oui, je disais autant il y a des choses vraies que tu dis, mais autant, à mon avis, on manque d'humilité en ce sens que. On lit toujours la parole de Dieu sous l'influence de l'Esprit Saint. Et je crois que quand on accueille une parole, soit dans un testament ou du discours, dans un groupe chrétien, il y a toujours quelque chose que fait surgir l'Esprit dans la compréhension de la parole et du mystère de Dieu. Et ça, on n'aura jamais fini de le comprendre. Et puis, on oublie toujours que c'est une communauté chrétienne, une communauté de foi qui nous donne un message. Et il faut, on est toujours à faire un effort d'intelligence de la foi, c'est pour ça que je suis ici. Et je crois qu'on ne fait pas assez. Faire un effort d'intelligence de la foi pour découvrir le sens du mystère.
Oui.
Mais je crois que la Bible connaît le cœur de l'homme et elle met les pieds dans le plat. Et c'est vrai que nous avons souvent envie de tordre le cou à nos ennemis, de les noyer tous. Et la Bible le sait et elle part de là pour changer notre image de Dieu. Donc c'est comme dans les psaumes, parfois on dit Seigneur que je fracasse la tête de mes ennemis dans les communautés religieuses. Bien pensant, quand on chante l'office, on met ça entre crochets et on ne le dit pas, alors que c'est surtout ça qu'il faut chanter. Justement pour se dire, ça m'habite aussi, et en le priant, je passe au-delà. Les aspérités expriment qui nous sommes, et la Bible, heureusement, ne les cache pas. Mais nous édulcorons ce qui ne nous plaît pas, on fait des découpes.
Oui, Tony.
J'ai l'impression que nous sommes tous très formés et donc déformés par l'esprit occidental et cartésien. Par exemple, si je disais, écoutez, il y a un principe fondamental, la vie est plus forte que la mort. Et c'est une question de foi. Je pense que beaucoup d'entre nous diraient oui, surtout si tu ajoutes cette question de foi, ok, bon, donc question d'arriver à cette conviction. De foi. Mais si je disais ça à des orientaux au bord de Babylone 500 ans avant Jésus-Christ, ils me diraient celui-là, comment ça s'y verrait ? Tandis que je viens de lire en fait le début de la Genèse, si je lis à des orientaux au commencement, ou lorsque Dieu commença, le souffle de Dieu planer au-dessus des eaux. Je crois qu'un oriental comprendrait souffle de Dieu, c'est la vie, les eaux, c'est la mort, et au-dessus, ça veut dire que c'est plus fort.
Oui.
Je ne suis pas oriental, donc...
Donc tu ne le vois pas comme ça, tu le dis autrement.
Autrement. Mais le texte qui m'est donné est oriental, et donc, ou bien je dis simplement la philosophie, la vie plus forte que la mort, et je peux vivre de ça. Que je trouve en fait quand même plus intéressant d'aller voir, et c'est plus riche, tiens, le souffle de Dieu, l'eau et tout ça, et tout ce symbole, ça mène plus loin quand même.
Oui, mais tu vois, les gens, les occidentaux du XXe siècle, ils voudraient avoir, dites-nous tout ça en résumé, hein, faites un petit digest de ça, et donnez-nous l'essentiel. Tu vois ?
C'est l'agneau.
Internet.
Mais, ah oui, mais j'allais y venir, parce que Internet, c'est Babel. Allez voir. Mais c'est ce qu'il voudrait. Qu'on puisse dominer tout et savoir de quoi il s'agit. Mais le savoir n'est pas extérieur, le savoir est intérieur.
C'est toujours la même chose, c'est l'historicité de la foi sur lequel on lutte.
Mais il faut qu'elle soit historique. Sinon, c'est une idéologie et elle est à la. Comment dirais-je ? Alors, elle devient accessible, surtout l'idéologie, réduite à sa plus simple expression. Elle est accessible à tous. Les idéologies marchent bien, mais ici, c'est une histoire. Et donc, une histoire qui est dans son contexte. Mais c'est une difficulté aussi pareille, enfin, non, analogue. Hein, lorsque nous avons des étudiants indiens, souvent, et nous disent ceci. Nous avons, dans toute la tradition de l'hindouisme ou du bouddhisme, nous avons là nous avons aussi des livres, et nous avons des livres d'une plus grande élévation que cette histoire lamentable du peuple d'Israël. Et souvent, ils ont tendance à négliger l'Ancien Testament et à dire, nous avons un Ancien Testament. Et nous n'avons pas besoin de celui-là. Et c'est souvent quelque chose de difficile pour eux, un passage difficile, de dire, mais attention, l'important, ce n'est pas d'avoir un texte élevé, ou qui nous dit un peu qui est Dieu ou la divinité, hein, mais l'important, c'est de suivre les méandres d'une histoire. Et quand quelqu'un me raconte son histoire, ben, moi je n'ai pas vécu son histoire, il me la raconte peut-être dans une autre langue que la mienne, donc j'ai à faire doublement attention pour écouter non pas seulement des notions de cette histoire, mais la manière dont il nous raconte lui-même cette histoire telle qu'il l'a vécue. C'est pour ça que l'interprétation de la Bible est si proche de la relation psychanalytique, par exemple, hein, où la personne qui souffre refait son histoire. Et elle doit la reprendre avec ses méandres. Elle revient, elle avance, elle dit, mais l'image que j'avais de mon père, c'était celle-là. Et puis le lendemain, elle vous dit, mais l'image que j'avais de mon père, c'est autre chose. Et puis elle dit, mais ma mère m'en a voulu, elle ne m'a pas aimé. Et puis elle vous raconte toutes ces histoires-là, et puis le lendemain, ou 6 semaines après, elle vous redit le contraire. Mais qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est le chemin. Et ce chemin, c'est une histoire. Hein? Vous pourriez réduire tout cela, hein, vous mettez sur l'affiche de la dame, bon, hein, un Édipe non résolu et des machins pareils. Vous repérez comme cela en science d'aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est l'histoire qu'elle a vécue et où elle est présente. Et ici, c'est la même chose. J'écoute une histoire avec les termes dans lesquels elle m'est racontée. Il y a des incohérences. Même en Jésus, Jésus vous dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Et puis il dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne. Mais il me dit ça dans 2 histoires différentes, dans 2 contextes différents. Je ne vais pas superposer les choses. Mais dans quel sens me dit-il qu'il me donne la paix? Et dans quel sens me dit-il qu'il m'apporte la guerre? Et donc, il faut bien que j'aille voir dans le contexte. Alors, je dirais, le texte est un vivant. Alors, si je le traduis, ou si je le réduis, ou si je le résume, eh bien, j'épargne, évidemment, tout le chemin d'une histoire. Alors, le malheur, c'est que tout le monde n'a pas le temps, n'a pas l'argent, c'est vrai, la liberté, le loisir, de refaire tous les méandres de cette histoire. Et ce n'est pas donné à chacun, mais ça c'est donné à certains pour d'autres. C'est tout. Et si moi, j'ai reçu la tâche de la lire un peu et de comprendre certaines choses, mais c'est pas pour garder ça pour moi. Oui. Alors, on fait ce qu'on peut avec le moyen qu'on a, et on va jusqu'où on peut, en sachant bien que quand je mets un point final, un autre va prendre la relève. Et ça c'est de l'espérance. Je ne sais pas faire tout. Je crois que je ne suis pas Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Hein, premier article du Credo. Mais je ne sais pas faire tout, mais il y a un chemin qui se fait. Il y a des gens qui écopent. Je vais prendre la même chose pour le déluge. Il y a des gens qui écopent. Tout le monde n'aura pas le loisir, tout le monde n'aura pas le temps ou l'argent, hein, pour essayer de comprendre le texte du déluge. Et il y en aura qui seront envahis par les eaux, hein, de l'incompréhension, de l'indifférence, appelez ça comme vous voulez. Mais il y en a qui vont percevoir le sens du texte, qui vont pouvoir surnager, hein, ou vivre encore, survivre après le déluge pour pouvoir transmettre à d'autres. Voilà encore une manière de dire le texte pour aujourd'hui. Et d'une manière espérante. Ce texte, en tout cas, que vous le preniez comme vous voulez, dit une espérance. Et dit, à partir d'une image d'un Dieu qui punit, j'arrive à une image d'un Dieu qui donne et qui redonne et définitivement la vie. Dans les termes ici, qui restaure sa création, dans les termes dans lesquels il l'avait instaurée. Donc ça veut dire que il ne s'est jamais repenti. Alors pourquoi on dit qu'il s'est repenti? Mais c'est l'homme qui découvre cela. C'est l'homme qui tout d'un coup découvre qui va à l'encontre du dessein de Dieu. Et il donne à Dieu une raison de se repentir. Ça ne veut pas dire que Dieu va se repentir, mais il lui donne une raison de se repentir par sa conduite. Je donne à ma mère une raison. Pourquoi est-ce que je t'ai fait, jamais? Hein? Ce sont des paroles que vous entendrez de la bouche d'une maman. Pourquoi est-ce que je t'ai fait gamin? Donc, qu'est-ce que le gamin doit découvrir à travers cela? C'est que son agir n'est pas selon ce que sa maman rêve. À bon entendeur, salut. Alors, il va peut-être recevoir la taloche, c'est-à-dire le déluge. Comment est-ce qu'il va vivre au-delà de la taloche? Mais oui, mais ce sont des exemples concrets que vous pouvez prendre avec les enfants quand même, c'est pas compliqué. Hein? Mais pour ça, il faut avoir perçu quel est le mouvement du texte, qu'est-ce qui nous dit. Pourquoi passe-t-il d'une image à l'autre? J'ai cassé le vase de maman, elle va être en colère. Et déjà, je pleure, je me lamente, je trépigne. Puis maman arrive, elle voit les morceaux du vase, et elle embrasse son gosse. Mais je vais d'abord raconter des histoires comme ça à l'enfant, pour le préparer. Ou bien après, ou bien avant, peu importe, comme ça se met. Pour que l'enfant puisse découvrir lui-même qu'il y a une différence entre l'image qu'il se fait de sa mère en colère et sa véritable mère. Il y a des stades différents. Mais ce sont des expériences que tout enfant peut faire. Et les simples, les gens qui n'ont pas tant de préoccupations intellectuelles, je dirais, ils découvrent souvent les choses comme d'instinct. Souvent. Moi, j'ai appris beaucoup de choses des enfants, et des dessins d'enfants. Là, quand je regarde ces dessins d'enfants, je découvre des tas de choses. Bien sûr qu'ils ne sont pas conscients, hein? Ils ne sont pas conscients de tout ce qu'ils mettent. Mais, parfois, quand un enfant me fait un dessin, je lui pose une question ou deux. Et souvent, il me met sur la voie. Il ne sait pas la réponse exacte. Hein? Il ne sait pas la raison. Mais quand vous voyez, par exemple, un enfant qui vous fait un soleil, et puis une tête de Jésus qui a exactement la même forme que le soleil, et encore en plus la même couleur, c'est pas pour rien qu'il fait ça comme ça. C'est pas pour rien. Et quand vous faites des enfants autour de Jésus, par exemple, tous regardant vers Jésus, et il y en a un qui ne regarde pas vers Jésus, mais qui regarde de l'autre côté, et alors que vous posez la question à l'enfant, où est-ce que tu es toi? Moi, c'est celle qui ne regarde pas Jésus. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Moi, c'est celle qui ne regarde pas Jésus. Pourquoi tu ne regardes pas Jésus? Ah, parce que mes parents, ils ne croient pas en Jésus. Vous voyez? Il va indiquer, simplement dans un geste, quelque chose de très important. Et voilà le début d'une catéchèse. Hein? Et l'enfant a su dire, mais il l'avait fait comme ça. Alors, moi je trouve qu'à travers des catéchèses comme ça, on arrive à leur faire découvrir, non peut-être pas tous les textes de la Bible, il y en a beaucoup trop, hein? Mais en tout cas, le sens de Dieu. Et à mon avis, ça c'est essentiel. Alors voilà, on est... Oh, il est... On a déjà dépassé. On n'est que reprend d'ailleurs André Wénin aussi, il trouve qu'il est intéressant. Le texte tel qu'il est maintenant, vous pouvez le diviser en trois parties, mais c'est quand même intéressant de voir ce que cette division fait ressortir du texte. D'abord, il y a une annonce. Le thème de l'annonce est toujours important, aussi bien dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Quand on annonce quelque chose, ça veut dire qu'on sait ce qui va se passer. Sinon, on n'annonce pas. Hein. On annonce la venue du roi, donc c'est que le roi va venir. Et donc, le thème de l'annonce dans la Bible exprime toujours ce que le terme d'annonce dit, c'est que Dieu sait ce qui va se passer. Autrement dit, il y a un plan, il y a un projet, il y a un programme déjà imaginé. C'est ça que, dès qu'on dit annonce, sous toutes ses formes dans la Bible, c'est cela que cela veut dire. Ce sont des clés tout à fait simples. Donc, l'annonce, mais intéressant de voir que cette annonce est à la fois annonce du déluge, Dieu vit, ça c'est l'introduction, Dieu est en train de constater quelque chose et dit, il faut remédier à la situation. Ça ne va pas. Il dénonce une situation. Et donc c'est lui qui doit prendre en charge la solution. Il doit résoudre le problème. Et donc, il annonce le déluge, c'est-à-dire une destruction, et une alliance. Donc il annonce les deux points, à la fois destruction et restauration, l'alliance. On va dire ce sont deux termes opposés, détruire et faire alliance. Et si le deuxième vient après le premier, c'est que le deuxième est plus important. Le déluge doit aboutir finalement à une alliance. Donc le déluge apparaît déjà dès le départ comme la prise de conscience d'un mal qui détruit l'humanité. Et comment Dieu va-t-il s'en tirer pour faire sortir de ce mal un bien? Voilà comment la question est posée. Annonce du déluge et de l'alliance, donc ce sont les versets 6, 13 à 22. Ici j'ai fait une erreur, je vais la restituer tout de suite. Oui, et donc qui se divise, mais oh non, je l'ai mis ici, pardon, c'est là. Voilà. Donc, il se divise en trois points. L'annonce du déluge, toujours annonce du déluge, et en même temps que le déluge, le moyen d'y échapper, c'est-à-dire la construction de l'arche. L'arche est une protection du déluge. Il y a moyen de se protéger, et soi-même, la famille en question, la famille de Noé, et les animaux, et son environnement. Donc, il faut que l'homme puisse ait de quoi vivre, donc il ne peut pas vivre tout seul. Animaux, environnement. Deuxièmement, annonce de l'alliance, avec Noé, et avec les survivants, ceux qui sont dans... Le reste, comme on a dit hier. L'annonce de l'arche, de la construction de l'arche, ce sont les versets 13 à 17, pour être plus précis. 13 à 17. L'alliance avec Noé, ce sont les versets 18 à 21. Et finalement, la conclusion, c'est l'exécution. Et on a remarqué l'exécution par Noé de ce que Dieu lui a demandé. Et Noé fit ce que Dieu lui avait commandé. Verset 22. On a remarqué que cette conclusion d'exécuter l'arche d'alliance était tout à fait parallèle au texte de l'Exode où Dieu dit à Moïse comment il doit faire la tente sainte, c'est-à-dire le temple, si vous voulez, au milieu du camp, comment il doit la fabriquer, et puis la fabrication par Moïse. La conclusion, il fait comme Dieu lui a demandé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il entre dans le plan de Dieu. Oui? Dieu donne déjà, dès le départ, la manière d'échapper à la ruine et à la destruction. Il sauve quelqu'un. Il le sauve, comme dans l'histoire de Utnapishtim, de Gilgamesh, il le sauve en lui donnant... les plans de la construction de l'arche. C'est Dieu qui donne tout. Ça veut dire que les moyens de se sauver ne viennent pas de l'homme, les moyens de se sauver viennent de Dieu. Et l'homme fait, entre dans le projet de Dieu. Le déluge, là on a remarqué, je vous l'ai fait remarquer hier, le déluge est surtout décrit par une crue et une décrue. D'abord, l'eau monte, et l'eau monte soulève l'arche. On dirait que l'eau, qui est une puissance de destruction, est en même temps une puissance de protection, puisqu'elle surélève l'arche et elle lui permet de survivre. On a remarqué souvent cela. Déjà, Saint Augustin montrait cela. On entre dans l'arche, c'est 6 à 16a, vous avez entré dans l'arche. Puis vous avez les eaux qui grossissent, les eaux grossissent, elles montent, elles enflèrent fort, fort, qui va de 7, 18, 16, ah en fait, 18 à 24, je crois. 24, oui, c'est ça. Et puis, vous avez ce chapitre 8, verset A, Dieu se souvint. Encore une chose intéressante. Et ça, c'est au centre du récit. Dieu se souvint de Noé. Donc, il a enfermé, puisque c'est lui qui a fermé la porte, il a enfermé Noé dans l'arche, et puis il se souvint de Noé. Moyen de dire, quand Dieu se souvient de quelque chose, manière de dire qu'il est toujours présent à la situation. Il n'apparaît pas de l'extérieur, mais il est présent à la situation. Dieu se souvient. En fait, Dieu ne peut pas perdre la mémoire. Dieu ne peut pas se souvenir. De nouveau, c'est une manière de dire. Est-ce que Dieu peut se souvenir et peut oublier? Non. Alors, pourquoi dit-on que Dieu se souvient? C'est l'homme qui se rend compte, tiens, maintenant il s'est souvenu de nous. Il ne nous a pas laissés dans l'arche. Parce que l'arche peut être une prison. Si on reste enfermé là-dedans. Donc échapper, on peut échapper et se faire une prison. Il y a des gens qui s'échappent dans la prière. Et qui se font de la prière une sorte de prison. Ils sont bien là-dedans, ils sont bien protégés, bien calfeutré, mais il s'échappe. Alors, attention, il n'est pas là pour rester indéfiniment, en dehors du monde, en dehors de la contamination avec le mal, il est là pour rentrer dans ce monde. Donc, c'est 40 jours et 40 nuits, il est resté là. Le temps d'une expérience spirituelle. 40 jours et 40 nuits, hein, Jésus qui fait le jeûne pendant 40 jours et 40 nuits, le peuple d'Israël qui circule dans le désert pendant 40 jours, ce terme de 40 jours et 40 nuits est toujours le temps d'une expérience intérieure, d'une expérience. Il faut que ça dure un peu, pour qu'on s'en rende compte. Une retraite, quoi. Hein, une bonne grande retraite.
L'ignatière.
Oui. Ou autre. Et puis les eaux cessent, littéralement, elles manquent. Curieux d'utiliser ce terme. Les yeux grossissent, et puis elles manquent, tout d'un coup. Elles font défaut. On était habitué à l'eau, et maintenant voilà que l'eau disparaît, et le combat va devoir recommencer. Les eaux cessèrent, de 8.1 à 13, au verset 13a, et puis sorti de l'arche, bien entendu. Il faut entrer en retraite et il faut sortir de retraite. 8, 14 à 19. Et là, il y a deux opérations importantes. Entrer dans l'arche avec tout le fourbi, hein, avec de quoi manger, etc. Et puis Dieu ferme la porte. Autrement dit, c'est finalement Dieu qui préside à toute cette réalité-là. Sorti de l'arche, après avoir envoyé hein, le corbeau et puis la colombe. Ce terme de colombe est aussi particulier, c'est Jonas, la colombe. C'est Jonas. Jonas est la colombe. Jonas symbolise le peuple d'Israël, qui est fidèle ou infidèle. La colombe symbolise souvent le peuple. Alors, bénédiction et alliance. Donc, vous voyez, les trois phases. Annonce, déluge, ce qui est annoncé est mis en œuvre, le déluge, mais il annonçait deux choses, déluge et alliance. Donc, il faut encore parler de l'alliance. Et l'alliance est conçue comme venant sceller une bénédiction. Et cette bénédiction reprend exactement la bénédiction du début. Il bénit Noé et ses fils, croissez, multipliez, emplissez la terre. Bénédiction de Noé.
Bénédiction de Noé. Dieu bénit Noé
et ses fils, bien entendu. Et
nourriture animale.
Donc on voit que Dieu a voulu en quelque sorte dévier la violence de l'homme. Au lieu de la tourner vers lui-même ou vers son semblable, il y a une concession qui est donnée. Que sa violence puisse s'exercer vis-à-vis de l'animal. C'est intéressant aussi de rapprocher cela, parce que ce sont des thèmes qui reviennent dans la Bible, de l'histoire de la tribu de Lévi. Il y a dans l'histoire subséquente, dans l'histoire des tribus qui est racontée après, et qui est encore reprise dans les bénédictions d'Israël, soit au chapitre 49 de la Genèse, soit au chapitre 33 du Deutéronome, bénédiction de Jacob et bénédiction de Moïse. Il y a une inimitié assez violente, frères ennemis, entre la tribu de Lévi, qui va devenir sacerdotale, et la tribu de Siméon. Ils se bagarrent toujours les uns contre les autres, les deux tribus étant voisines en Israël, dans le sud. Et pour en finir avec la violence de la tribu de Lévi, on finit par les faire prêtres, par en faire des prêtres. Ben oui, le prêtre à l'époque est avant tout un boucher. Hein? C'est quelqu'un qui offre des sacrifices. Donc qui dépêche, qui tue les animaux et qui les dépêche. Et à telle enseigne même que si on voulait avoir de la viande, il fallait la chercher dans les temples. C'est dans les temples qu'il n'y avait pas de viande ailleurs. Les boucheries n'étaient pas, comme nous disons aujourd'hui, profanes.
Un exutoire de la combativité.
Ben oui, voilà. Exutoire à l'agressivité. Au lieu d'être agressif contre votre frère, soyez agressif contre les animaux. Comme il s'agit du sacerdotal, il est bien possible qu'il y ait une remémoration de cette histoire-là. Et c'est amusant de voir cela. Alors, et donc la nourriture animale est permise ici, versets 1 à 17. Elle est permise, mais encore une limitation. La vie de toute chair est dans son sang. Quand tu manges l'animal, tu ne vas pas boire son sang. Signe que tu ne peux pas verser le sang. Tu ne peux pas verser de l'homme, et donc la symbolique va jouer, ne pas verser, enfin tu peux verser le sang de l'animal, mais pas le consommer. C'est-à-dire ne pas ingérer la vie de l'autre. C'est-à-dire ne pas prendre sa place, lui laisser toute sa dignité. Et il y a toute une réflexion, toutes ces réflexions, vous les voyez, sont toujours présentes dans la réflexion. Vous prenez même un livre de morale juive, qu'on appelle le Shulchan Aruch, c'est-à-dire la table dressée, et qui nous parle de toute la cacheroute, hein, toutes les prescriptions de la cacheroute, ce qu'il ne faut pas mélanger, comment on doit préparer les plats, ce qu'il ne faut pas... les animaux purs, les animaux impurs, les aliments purs, les animaux impurs, etc. Et chaque fois, tout cela est assorti de réflexions spirituelles. Et actuellement, par exemple, ce sont surtout les femmes, les mamans, qui expliquent tout cela à leurs filles. Et qui n'expliquent pas seulement ce qu'il faut faire ou ne pas faire, mais le pourquoi, le sens spirituel de ces limitations. Hein, animal pur, animal impur, sang, pas sang, pourquoi ne pas mélanger les produits lactés et les produits carnés, hein, la viande et le fromage par exemple, ne mélangent jamais ensemble dans un même repas. Hein. Pourquoi pas s'habiller avec du coton et du lin par exemple, voyez, des mélanges d'interdits. Mais chaque fois, tout cela est rattaché à des réalités spirituelles. Ils savent très bien qu'il y a une convention dans tout cela. Mais ce qui est important, c'est de réaliser la chose concrètement, mais de se rappeler à quoi elle correspond. Donc, bénédiction de Noé et de ses fils, nourriture animale, et puis alors, vous avez établissement de l'alliance. Bénédiction et alliance avec, attention, Noé et ses fils, les animaux et les descendants. Avec la promesse, il n'y aura plus jamais de déluge. Qui dit la volonté de Dieu, verset 8. Il y a une petite erreur là. Oui, j'ai mis à 17, c'est ici. 8 à 18, et puis le verset 19. Donc vous voyez comment on peut diviser le récit. Annonce, réalisation. Double annonce, déluge, alliance, réalisation déluge, réalisation d'alliance et bénédiction. Bénédiction qui reprend la première. Donc annonce du déluge entrée et de la fabrication de l'arche, annonce de l'alliance avec Noé, donc, elle est dite dès le début. Et ça c'est intéressant. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient par la suite. L'alliance va traverser le déluge. Elle est première. En quelque sorte. Exécution par Noé, et puis alors, crue et décrue, avec entrée dans l'arche et les eaux qui grossissent, ça c'est la crue. Puis au centre, Dieu se souvient. Puis les eaux qui cessent après avoir grossi, et la sortie de l'arche. Donc c'est un schéma assez simple. Crue et décrue, avec au centre, donc Dieu se souvient. Puis bénédiction et alliance. Réalisée cette fois-ci. Là, elle était annoncée, ici elle est réalisée. Bénédiction de Noé avec nourriture animale pour, comme déviation, comme compensation de l'agressivité humaine. L'alliance avec Noé, les animaux et les descendants. Alliance universelle. Alors, conclusion, alliance et signe. Pourquoi le signe est-il... Le signe qui intervient est-il un signe tout à fait naturel et cosmique? Ça pourrait être un signe plus conventionnel. Vous aurez dans l'alliance avec Abraham, le signe va être la circoncision. L'entrée dans un peuple particulier. Peuple particulier d'Israël. Ici, non. Il n'y a pas de particularité. Ça s'adresse à l'humanité entière. Comme d'ailleurs tout le texte jusqu'ici. Les textes, les chapitres 1 à 11 de la Genèse sont universels. Ils ont cette volonté. Et d'où ces textes, en fait, peuvent être des thèmes de réflexion, même avec des incroyants, qui n'ont aucun sens de la Bible. Hein, simplement comme documents de la littérature humaine, tout simplement. On va voir qu'est-ce que ce texte dit. Il y a moyen de faire une réflexion aussi avec eux, s'il y a tant soit peu un sens de la littérature, ne fût-ce que de la littérature, il ne faut même pas aller plus loin au début. On peut voir au moins comment le texte fonctionne et ce qu'il dit, on peut au moins faire ça. Et donc le signe est un signe cosmique qui est bien connu de tous, hein, l'arc en ciel. De nouveau, c'est intéressant parce que l'arc, Keshet, c'est quelque chose avec lequel on tire. L'arc, c'est un signe d'agressivité. Or, l'arc-en-ciel signale généralement, enfin c'est pris comme ça en tout cas dans la mentalité de l'époque, hein, la fin d'une période de pluie, une période d'orage ou d'inondation éventuelle. L'arc-en-ciel est le signe qu'il va faire beau. Le soleil commence à nouveau à luire. Signe cosmique qui dit de nouveau hein, réalité universelle. Et pas pour un peuple en particulier, c'est pas un signe particulier, c'est un signe que tout le monde peut déchiffrer, décoder. Et en même temps, c'est la transformation d'une agressivité. Au lieu d'être un arc où l'on tire des flèches, avec lequel on tire des flèches et où on tue, c'est un arc de paix. L'animal que l'on envoie également, c'est un animal qui est reconnu pour sa douceur et sa pureté. Hein, là, c'est pas le corbeau, c'est déjà un peu moins bon. Il est noir, il n'est pas blanc. Hein, là, encore que la colombe là-bas en Israël et blanche avec quelques plumes noires. Ben voilà. Donc, signe de paix pour le monde entier. Mais voyez que, avant même d'avoir la permission de manger de la viande, Noé a fait en quelque sorte passer comme intercesseur toute l'agressivité humaine en sacrifice. Et ceci est intéressant. Comment peux-tu faire passer ton agressivité en l'offrant? Comment peux-tu l'offrir? Ici, c'est un geste où l'agressivité effective passe dans un geste qui abat un animal, qui le tue. Mais on vous dira, et petit à petit en Israël, on vous dira que ce que Dieu veut, ce n'est pas le sacrifice, ce n'est pas la bête tuée, c'est le sacrifice intérieur. Le sacrifice extérieur est image de l'intérieur. Si vous dissociez les deux, si vous faites des sacrifices extérieurs, hein, vous pouvez faire des holocaustes tant que vous voulez. Mais si vous n'êtes pas dans une attitude d'offrande, d'ouverture, de disponibilité vis-à-vis de Dieu, votre sacrifice ne sert à rien. Hein, regardez les diatribes comme celle du premier chapitre d'Isaïe, par exemple. Hein. J'en ai assez de vos sacrifices, ça m'écœure. Hein, ce que je peux faire avec ça? Vous arrivez ici, vous offrez le sacrifice, puis vous sortez, et vous allez tuer votre prochain. Hein, en lui prenant son argent, ou en déblatérant contre lui. Donc là, il y a une dissociation. Ici, au contraire, il y a... Et les pères de l'Église ont généralement vu Noé ici, comme un prêtre. Un prêtre offrant un sacrifice. Hein, dans cette image du prêtre offrant un sacrifice, image que tout homme peut être. Prêtre, c'est-à-dire celui qui... Oui, je vais lire le mot, même s'il n'est pas bien compris. Qui expie. Expiare. Qu'est-ce que ça veut dire, expier, ce verbe expier? On pourrait le traduire par qui compense. Qui compense par son attitude tout le mal, toute la violence, une attitude dans laquelle la violence est prise, hein, et assumée, mais où elle prend un sens. Non pas un sens de destruction, mais un sens d'offrande, de retour vers Dieu. Qui expie, c'est-à-dire qui compense le mal de l'humanité. Voilà un juste qui compense, qui intercède, qui prie pour, qui est médiateur, mais vous voyez, qui convertit en quelque sorte, qui rétablit pour l'humanité et à partir de l'humanité, puisque c'est un homme, c'est pas Dieu, et qui s'associe au travail rédempteur, au travail sauveur de Dieu. Du sein de l'humanité elle-même. Et Dieu répond par son arc. Voilà comment le texte fonctionne. Le texte fonctionne pour vous montrer que l'homme a aussi quelque chose à faire. On vous dit que c'est injuste, eh bien, on vous le donne en situation de juste. Qu'est-ce qu'il faut tirer d'un texte comme cela? Que, de même que Dieu ne désespère pas de l'humanité, tout en châtiant ce qui est mal, cette violence qui surgit et qui prend de plus en plus de place dans le monde, Dieu ne désespère pas de l'humanité. Car il y a toujours dans cette humanité quelque chose de bon, quelque chose sur lequel je vais pouvoir tabler, à partir duquel je vais pouvoir reconstruire. Ce qui est vrai pour toute la communauté l'est pour chaque homme. Et donc moi non plus. Je ne peux désespérer d'aucun homme. Je ne puis jamais dire, comme Dieu au départ, ça c'est une manière de voir les choses au départ, je ne peux jamais dire, le monde est foutu. Tout fout le camp. Il n'y a plus rien de bon. Je ne peux jamais dire cela. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui frappe mes yeux et dans lequel... Ou quelqu'un ou quelque chose dans l'homme trouve grâce à mes yeux. L'homme trouve grâce aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas fondamentalement pessimiste. Mais il sait voir de manière réaliste le mal. Et il dit, l'homme est en train de se détruire. Il faut que je réagisse à cette autodestruction par un supplément de vitamine, comme on disait hier, hein, un supplément de vitamine, et en le restaurant. Mais je ne peux le restaurer qu'à partir de lui-même. Il aurait pu dire, je vais tout filer, tout gommer, tout effacer, et puis refaire du neuf. Ah non. Ah non, c'est la même humanité. Il reprend de la graine. Comme vous faites, hein. Vous avez acheté des pommes de terre pour planter. Vous regardez vos pommes de terre, tout est pourri. Tout est pourri. Ah non, il y a 3 ou 4 pommes de terre qui ne sont pas pourries. Donc, mes pommes de terre ne sont pas pourries. Le reste. Donc je vais planter ces pommes de terre. Je pourrais évidemment racheter un autre sac. Vous voyez, ce qui est dit dans le texte, c'est pas je rachète un autre sac. Je repars des pommes de terre dont j'ai trouvé quelque chose qui était possible de faire de germe, de regermer à nouveau. Et c'est cela qui est mis en œuvre dans le récit. Je repars de ce qui est. Il y a toujours un noyau bon quelque part. Alors, quand j'ai quelqu'un qui désespère absolument de lui-même et des autres, et qui dit, il n'y a plus aucune solution, il faut que je m'en aille, il faut que je me tue, il faut justement essayer de lui faire prendre conscience de sa personnalité, de ce qu'il est vraiment, de ce qu'il y a d'intouchable en lui. Finalement, dans le texte, c'est l'image de Dieu, évidemment. À l'image de la ressemblance, et ça revient dans le texte. Et il se souvint Dieu de Noé et de tout vivant et de tout bétail avec lui dans l'arche. Et il fit passer Dieu, c'est curieux, c'est un souffle. Et le souffle, c'est Ruach. L'esprit de Dieu, le souffle de Dieu qui planait sur les eaux du début, et voilà qu'il revient ici. Nous pourrions traduire un vent, mais c'est aussi un vent, c'est le souffle, l'esprit. Et elles se calmèrent les eaux. Et elles furent closes, les sources de l'abîme, etc. Et alors, je reprends la fin. Donc, vous voyez l'ordre des choses. Sors de l'arche. C'est Dieu qui avait fermé la porte. Et c'est Dieu qui, maintenant, par sa parole, dit, maintenant, sors. L'homme a fait sa petite expérience. Il a envoyé son corbeau, il a envoyé sa colombe. Et puis, elle n'est plus revenue.